إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui, inshallah ta'ala, de la zakat, qui est une adoration importante et qui est le troisième pilier de notre religion. C'est même le plus important des piliers de l'islam après les deux attestations de foi et la prière. En effet, à de nombreux passages dans le Coran, vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a joint l'ordre de s'acquitter de la zakat à l'ordre d'accomplir la prière. À titre d'exemple, il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 5 de sourate Al-Bayyinah: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Et les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala rapporte ce célèbre hadith d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est fondé sur cinq. L'attestation qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'acquittement de l'aumône, le pèlerinage de la maison et le jeûne de Ramadan. Donc la zakat, c'est une obligation d'après les textes du Coran et de la Sunna, et ce à l'unanimité des musulmans. Et le fait de renier l'obligation de la zakat, c'est une forme d'apostasie qui fait sortir la personne de la religion de l'islam, wal'iyadu billah. Et celui qui refuse de verser la zakat par avarice, ou alors qui verse volontairement moins que ce qui lui incombe, alors celui-ci, il se rend coupable d'une grave injustice. Et il est alors sous la menace d'un châtiment terrible. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah a accordé des biens et qui ne verse pas sa zakat, qui ne verse pas l'aumône obligatoire sur ses biens, au jour de la résurrection, ses biens prendront la forme d'un serpent. Et il nous décrit comme étant un serpent mâle à la tête lisse à cause de la quantité abondante de venin qu'elle contient. Et ce serpent aura deux taches au-dessus des yeux. Et il s'entourera alors autour de son cou, autour du cou de la personne qui n'a pas versé la zakat sur ses biens. Puis il le saisira des deux extrémités de sa gueule et dira: je suis tes biens, je suis ton trésor. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir informé de cela, il a récité le verset 180 de la sourate Ali Imran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est un mal pour eux. سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre, au verset 34 et 35 de surat At-Tawbah: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Le jour où ces trésors, ces biens qu'ils ont conservés, seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés sur leur front, leur flanc et leur dos. هذا ما كنستم لأنفسكم. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. فذوقوا ما كنتم تكنزون. Goûtez donc de ce que vous thésaurisiez. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un propriétaire d'or ou d'argent ne verse pas leur dû, c'est-à-dire qu'il ne verse pas la zakat qui est obligatoire sur cela, on lui préparera alors au jour de la résurrection des plaques de feu qui seront portées à incandescence dans le feu de l'enfer, avec lesquelles on cautérisera son flanc, son front et son dos. À chaque fois qu'elles refroidiront, chaque fois que ces plaques refroidiront, elles y seront remises, elles seront remises dans le feu, durant un jour équivalent à 50 000 années, jusqu'à ce qu'on juge entre les serviteurs. Vous voyez donc à travers ces textes que la zakat est une prescription importante de notre religion, et qu'il n'est pas permis de la négliger, et que celui qui la néglige, qui refuse de la verser, alors il est sous la menace de ce châtiment terrible que vous avez pu entendre dans ces hadiths et ces versets. Malgré cela, on voit aujourd'hui que nombre de musulmans ignorent les règles essentielles liées à cette adoration. Alors que cette adoration, elle fait partie des obligations de notre religion, c'est le troisième pilier de l'islam. Ce n'est pas une chose que la personne est censée ignorer à partir du moment où elle possède des biens et lui incombe d'apprendre les règles liées à la zakat. C'est pour cela que j'ai tenu à faire ici un rappel concis à ce sujet, inshallah ta'ala, en essayant de réunir les règles les plus utiles à celui à qui il incombe de verser la zakat. Donc tout d'abord, il faut savoir que la zakat, elle est obligatoire sur des biens précis, elle n'est pas obligatoire sur l'ensemble des biens. Et on ne va pas tous les citer ici, mais on va citer seulement ceux qui sont les plus courants chez les gens, à savoir l'or et l'argent, la monnaie, les billets de banque, l'euro, les dollars, etc., et les biens commerciaux. On ne parlera pas ici de la zakat sur les récoltes et ainsi de suite. Donc parmi ces biens, on a dit il y a l'or et l'argent. La zakat, c'est une obligation sur l'or et l'argent à deux conditions. La première condition, c'est qu'ils atteignent le nisab. Le nisab qui désigne le seuil minimal à partir duquel la zakat devient obligatoire. Et le seuil minimal en ce qui concerne l'or, c'est 85 grammes. Donc si la personne possède 85 grammes d'or, elle aura atteint donc le nisab en ce qui concerne son or. Et en ce qui concerne l'argent, le nisab est de 595 grammes. Donc si une personne possède au moins 85 grammes d'or ou plus, ou alors 595 grammes d'argent ou plus, elle se doit de noter la date à laquelle elle s'est acquérie cela, c'est-à-dire la date à laquelle où elle a atteint le nisab. Ensuite, la deuxième condition pour que la zakat devienne obligatoire, c'est que tu possèdes cela pendant un an complet. C'est pour cela qu'il est important de noter la date. Une fois l'année écoulée, tu devras alors verser en zakat 2,5% de cet or ou de cet argent. Et ce n'est pas une condition de retirer directement de l'or ou de l'argent, mais tu peux en donner la valeur en monnaie. Et il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'or et l'argent, qu'ils soient sous forme de pièces, de lingots, de bijoux ou autres. Donc selon l'avis authentique, car cette question est sujette à divergence, la zakat est obligatoire même sur les bijoux de la femme, s'ils sont en or ou en argent. S'ils atteignent le nisab, même si la femme porte ses bijoux ou qu'elle les prête, la zakat est obligatoire. Et ce d'après la généralité des preuves qui ordonnent la zakat de l'or et l'argent, sans faire de distinction entre ces différents cas. D'autant plus qu'il y a des hadiths spécifiques qui sont rapportés au sujet de l'obligation de la zakat sur les bijoux, dans le cas où ils sont portés. Et ce, comme le rapporte Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhumah. Une femme est venue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle était accompagnée de sa fille, qui portait deux bracelets en or au poignet. Il lui dit alors, verses-tu la zakat sur cela, sur ces deux bracelets? Elle répondit alors qu'elle ne la versait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, souhaites-tu qu'Allah t'entoure de deux bracelets de feu à cause de cela? Alors elle jeta ces deux bracelets et dit, ils sont pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il nous prouve l'obligation de la zakat sur les bijoux de manière générale, même si la femme les porte sur elle. Et comme on a dit, cette question est sujette à divergence entre les gens de science. Toutefois, ceci est l'avis le plus proche de la vérité, inshallah ta'ala, de même que c'est le plus prudent pour la personne et le plus profitable pour les pauvres, inshallah ta'ala. Parmi les biens sur lesquels la zakat est obligatoire, il y a aussi la monnaie, comme on a dit, les euros, les dollars, les dinars, et ainsi de suite. Et la zakat, elle devient obligatoire une fois que cette monnaie a atteint le nisab, le seuil minimum obligatoire, comme pour l'or et l'argent. et qu'elle ait conservé un an. Toutefois, quel est le nisab sur lequel on doit se baser en ce qui concerne la zakat de la monnaie? La réponse est qu'on se base sur le nisab de l'or ou de l'argent en fonction de ce qui est plus profitable pour les pauvres, c'est-à-dire le seuil le plus bas. À titre indicatif, aujourd'hui, j'ai brièvement regardé sur certains sites le prix de l'or et le prix de l'argent. Donc la valeur approximative que j'ai trouvée est qu'un gramme d'argent vaut 46 centimes d'euros. Donc, quel est le nisab de l'argent? On a dit 595 grammes. Je multiplie 46 centimes par 595 et je trouve 273,70 euros. En ce qui concerne l'or, un gramme d'or vaut aujourd'hui, d'après les données que j'ai trouvées sur certains sites, 50,51 euros. On a dit le nisab de l'or, c'est 85 grammes. Donc je multiplie 85 fois 50,51, ça fait un total de 4293,35 euros. Donc quel est le nisab le plus bas, le seuil le plus bas? C'est le seuil de l'argent. Et c'est cela qui est le plus profitable aux pauvres. Donc le nisab, les gens de science ont dit, comme l'ont dit le comité des grands savants, le Lajnat Da'ima, le Cheikh Al-Uthaymin, le Cheikh Ibn Baz, on se base alors dans ce cas sur le nisab de l'argent. Donc celui qui possède 273,70 euros au minimum. Le jour où il atteint cette somme, donc ceci est le seuil aujourd'hui et cela peut varier tout au long de l'année. Donc chacun se doit de vérifier cela en faisant comme j'ai fait en regardant le cours de l'or et de l'argent. Donc en se basant sur ce nisab là aujourd'hui, si une personne par exemple gagne 300 euros, elle aura alors atteint le nisab qui on a dit est aujourd'hui de 273,70 euros. Et que pendant un an complet, en se basant sur la date égérienne, donc aujourd'hui nous sommes le 17 de Ramadan, si durant un an complet, la personne ne descend pas en dessous du nisab, tu possèdes 300 euros, et durant un an, tu ne descends pas en dessous de 273,70, qui est le nisab comme on a dit aujourd'hui. Le 17 du mois de Ramadan prochain, tu regarderas combien tu possèdes. Si tu possèdes encore ces 300 euros, tu ne possèdes pas plus, alors tu donneras 2,5% en zakat, c'est-à-dire 7,50 €. Et si tu as ajouté à cette somme, au cours de l'année, tu as ajouté à cette somme, et que tu possèdes par exemple 1000 euros, alors tu verseras la zakat sur ces 1000 euros, et ainsi de suite. Toutefois, si au cours de l'année, tu descends en dessous du seuil, par exemple une personne gagne aujourd'hui son salaire, elle touche aujourd'hui son salaire du mois qui est de 1500 euros, elle aura donc dépassé le seuil. Mais ce salaire, elle le dépense entièrement chaque mois. Tous les mois, elle dépense son salaire complètement, il ne lui reste plus rien à la fin du mois. Ou alors, moins que le nisab. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat à verser. Mais pour avoir l'obligation de verser la zakat, il faut conserver la somme au-dessus du nisab pendant un an. On va donner un autre cas concret pour comprendre. La personne gagne aujourd'hui 1000 euros. Somme le 17 de Ramadan, et la personne a 1000 euros. Elle a donc dépassé le nisab. Ces 1000 euros, le jour de l'Aïd, elle va les dépenser. Elle va faire un achat ou autre. Et elle va dépenser ses 1000 euros. Elle possède donc 0. À ce moment-là, elle est donc redescendue en dessous du nisab. Quelques jours après l'Aïd, elle regagne de l'argent. Elle gagne 500 euros. À ce moment-là, elle a redépassé le nisab. Elle devra donc noter la date à partir de laquelle elle a dépassé le nisab. Et regarder si elle reste au-dessus du nisab tout au long de l'année. Si tu restes tout au long de l'année, à la fin de l'année, tu regarderas combien tu possèdes au total. À partir du moment où tu as atteint le nisab. Mais si au cours de l'année tu descends en dessous du nisab, en dessous de 273,70, alors la zakat ne sera plus obligatoire car tu possèdes moins que le nisab. Et tu devras recommencer le décompte à partir du moment où tu redépasses le nisab. Et ça c'est très important. Car il y a des personnes qui se fixent une date. Ils prennent une date fixe, au hasard, et ils disent je vais payer ma zakat tous les premiers du mois de Ramadan. Alors que peut-être il a dépassé le nisab durant le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année égérienne. Alors, il aura en cela du retard concernant sa zakat de Muharram jusqu'à Ramadan. Donc il est important de comprendre que la zakat, elle n'est obligatoire que si tu possèdes tes biens durant une année complète, au-dessus du nisab. Et j'espère que les exemples auront été assez clairs, Inch'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, il est important que tu regardes ta date référence, la date à laquelle tu as atteint le nisab. Dès que tu as dépassé le nisab, tu notes cette date, d'après le calendrier égérien, non pas le calendrier grégorien, car toutes nos adorations elles sont basées sur le calendrier égérien, le calendrier lunaire. Tu notes la date référence, Et tu observes durant l'année si tu redescends ou non en dessous du nisab. Si tu ne redescends pas au-dessus du nisab, un an après, tu devras verser la zakat, 2,5%, sur l'ensemble de la monnaie que tu possèdes. Et parmi les biens sur lesquels la zakat est obligatoire, il y a aussi les biens commerciaux. C'est-à-dire tout ce que tu achètes dans le but de le revendre et d'en tirer bénéfice. Comme par exemple l'immobilier, des appartements, des bâtiments, des terres, ou alors des voitures, ou toute autre sorte de biens commerciaux, tout ce que la personne achète dans le but de le revendre et d'en tirer profit. Et l'obligation est d'en verser 2,5%. C'est-à-dire que tu évalues, après une année, la valeur de ce bien. Si par exemple c'est une terre, tu l'as achetée dans le but de la revendre pour en tirer profit. Tu ne l'as pas achetée pour construire ta maison ou pour mettre ton argent de côté, mais tu l'as achetée dans le but de la revendre en espérant que sa valeur augmente et d'en tirer profit. Donc tu l'achètes aujourd'hui, le 17 Ramadan, au prix de 2000 euros. L'année prochaine, si tu ne l'as toujours pas vendu, que tu n'as pas réussi à la vendre, tu n'as pas réussi à en tirer le prix que tu souhaites, alors tu regardes sa valeur à cette date. Que cette valeur soit égale, qu'elle vaille toujours 2000 euros, ou alors qu'elle soit inférieure ou supérieure au prix où tu l'as acheté. C'est-à-dire que si, par exemple, son prix a baissé et qu'elle ne vaut maintenant plus que 1000 euros, alors tu paieras 2,5% de 1000 euros, soit 25 euros en zakat. Mais si son prix a augmenté et qu'elle vaut maintenant 10 000 euros, alors tu donneras 2,5% de ces 10 000 euros, c'est-à-dire 250 euros en zakat. Tu dois te baser sur la valeur du bien au moment où la zakat devient obligatoire. Et on a dit tout ce qui est destiné à l'usage personnel, comme par exemple ta maison, ou ton appartement, ou ta voiture, ta moto, et ainsi de suite. Tout ceci, il n'y a pas de zakat dessus. Également, si tu as des biens qui sont destinés à la location, que tu n'as pas acheté pour les revendre, par exemple, tu as acheté un bâtiment dans lequel il y a des appartements que tu mets en location. Ou alors tu achetais des voitures dans le but de les louer, ou du matériel ou autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat sur ces biens en eux-mêmes. Mais tu devras payer la zakat sur quoi? Sur les revenus de la location. Car ils font partie de tes biens, de la monnaie que tu vas posséder, sur laquelle tu devras payer une zakat au bout d'une année, comme on a dit pour la monnaie. Donc tous les outils que la personne va posséder dans son commerce, comme par exemple les fours, ou le matériel qu'il utilise pour travailler, il ne va pas payer de zakat dessus. Mais il va payer la zakat sur ce qui est destiné à la vente. Par exemple, si une personne a un magasin de vêtements, elle ne va pas payer de la zakat sur les présentoirs, et ainsi de suite. Mais elle va payer la zakat sur ce qui est vendu, c'est-à-dire sur les vêtements. Et cette zakat, elle se paye sur la valeur des biens, au bout d'un an. C'est-à-dire que chaque année, le commerçant se doit de faire l'inventaire de ce qu'il possède et donner 2,5% de la valeur de ses biens. Et cette zakat, à qui doit-on la verser? La réponse, elle nous est mentionnée très clairement dans le verset 60 de Sourate At-Tawbah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Le sadaqat, c'est-à-dire la zakat obligatoire, n'est destinée que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse, ceci est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. On voit donc dans ce verset qu'il y a 8 catégories de personnes à qui on peut verser la zakat. On va donner une brève explication au sujet de ces catégories. Les pauvres, ce sont ceux qui ne trouvent pas ce qui leur suffit, ou alors qui n'ont que très peu de biens. Par exemple, une personne n'a pas de quoi vivre durant la moitié d'un an. Alors, on dira que c'est un pauvre. On va alors lui donner en zakat ce qui lui suffit pour lui et sa famille pour vivre une année. Les indigents, ce sont ceux qui trouvent la moitié de ce dont ils ont besoin pour une année, ou un peu plus, mais ils n'ont pas ce qui leur suffit pour l'année complète. Donc, al-meskin dans le verset, il est un peu moins pauvre que le faqir. Mais il est tout de même pauvre et il a le droit à la zakat. On va alors lui compléter ce dont il a besoin pour les dépenses d'une année. Et si une personne n'a pas d'argent, ne possède pas d'argent, n'a pas épargné d'argent, mais elle a une source de revenus, par exemple, elle a un métier, ou elle a un salaire qu'elle reçoit chaque mois, ou une exploitation agricole, ou un investissement qu'elle a fait dans un commerce et qu'elle en reçoit les revenus, et que cela comble ses besoins pour l'année, alors dans ce cas, elle n'a pas le droit à la zakat, même si elle n'a pas épargné ce qui lui suffit pour une année. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune part d'elle, c'est-à-dire de la zakat, pour un riche ou un homme fort en mesure de travailler. Donc celui qui travaille ou qui a un revenu, et que ce revenu lui suffit pour vivre tout au long de l'année, alors il n'a pas le droit à la zakat. Toutefois, si ce revenu ne lui suffit pas, si par exemple, il gagne chaque mois 1000 euros, mais que ses besoins essentiels, son loyer, ses factures d'électricité, de gaz, la nourriture pour ses enfants, leurs vêtements, etc., cela lui nécessite par exemple 1300 euros par mois. Alors dans ce cas-là, on dira qu'il est pauvre et qu'il peut recevoir la zakat. La troisième catégorie, ceux qui y travaillent, c'est-à-dire ceux que le gouverneur de l'État musulman a chargé de récolter la zakat. Ils vont recevoir de cet argent en guise de salaire. La quatrième catégorie sont ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Les gens de science ont dit que ce sont les chefs de tribu, les personnes importantes dont leur foi est faible. On va alors leur donner la zakat pour que leur foi, elle se renforce, elle se consolide, et ce, afin qu'ils soient des exemples et des modèles pour les gens qui les suivent et qui sont derrière eux. La cinquième catégorie, c'est l'affranchissement des joues, c'est-à-dire le fait d'acheter une personne qui est esclave avec la zakat dans le but de l'affranchir. Et entre dans cela également le fait de financer la libération des prisonniers musulmans. La sixième catégorie, ce sont ceux qui sont lourdement endettés. Une personne qui a une dette et qui ne possède pas de quoi régler sa dette. Il est alors permis de lui donner de la zakat afin qu'elle puisse payer sa dette, que sa dette soit grande ou petite. Et ce, même si cette personne a ce qui lui suffit pour subvenir à ses besoins quotidiens, mais qu'elle ne possède pas de quoi payer cette dette. Par exemple, une personne a un salaire, même si c'est un salaire élevé, mais que ce salaire ne lui suffit que pour ses besoins quotidiens, et que chaque fin de mois, il ne lui reste plus rien de ce salaire, et qu'il ne peut pas payer cette dette. Alors dans ce cas-là, il lui permet de lui donner de la zakat, afin qu'il puisse régler sa dette. Et parmi les points importants à souligner ici, il y a le fait qu'il n'est pas permis au créancier d'affranchir un pauvre de sa dette envers lui, en mettant l'intention que c'est de la zakat. Par exemple, tu as prêté de l'argent à une personne, qu'on va nommer Mohammed. Tu as prêté de l'argent à Mohammed, 1000 euros. Et Mohammed est pauvre et ne peut pas te rendre cet argent. Et toi, tu dois verser ta zakat, et ta zakat est de 1000 euros. Alors tu vas vers cette personne et tu lui dis, Mohammed, tu as affranchi de ta dette. Tu ne me dois plus rien. Ceci n'est pas permis. Si tu as mis l'intention que ce soit la zakat, cela n'est pas permis. Car en réalité, c'est qui profite de cette zakat dans ce cas-là? C'est toi-même. Car lui, il ne pouvait pas te rendre cet argent. Il n'avait pas la possibilité de te rendre cet argent. Donc, en lui disant qu'il est affranchi de sa dette, c'est comme si tu avais récupéré ton propre argent et c'est pour cela que ce n'est pas permis. La septième catégorie, c'est dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire tout ce qui concerne la lutte sur le sentier d'Allah. Il est permis de donner de la zakat pour cela. Et la huitième catégorie, c'est pour le voyageur en détresse. Une personne est venue en voyage dans un pays. Et elle se retrouve sans rien. Il se peut que dans son pays, elle ait de l'argent. Mais elle n'a pas accès à cet argent dans le pays où elle se trouve et où elle est bloquée. Et ça, en ce moment, il est possible que cela arrive, notamment avec le confinement. Qu'une personne ait voyagé dans un pays et soit bloquée dans celui-ci et se retrouve sans bien. Alors cette personne, il est permis de lui donner de la zakat. Car elle fait partie des catégories ayant droit qui sont mentionnées dans le verset. Il est donc permis de donner sa zakat à une de ces huit catégories, et ce n'est pas une condition que tu l'éparpilles entre ces huit catégories, car il y a certaines personnes qui pensent qu'ils doivent diviser leur zakat dans ces différentes catégories. Mais si tu donnes à un pauvre, à un indigent, à un voyageur en détresse, cela est suffisant, inshallah ta'ala. Et la zakat, elle renferme de nombreux bénéfices. Des bénéfices religieux, des bénéfices moraux, mais aussi des bénéfices sociaux. Parmi ces bénéfices religieux, il y a le fait, comme on a dit, qu'elle représente l'accomplissement d'un des piliers de l'islam. Et le fait que tu mettes en pratique ces piliers de l'islam, c'est sur cela que repose ton bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Également, lorsque tu verses la zakat, tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci fera augmenter ta foi. Et ce, comme l'ensemble des actes d'obéissance que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car la foi, elle augmente par l'obéissance à Allah, elle diminue par la désobéissance. Donc lorsque la personne verse sa zakat, ceci est une cause pour faire augmenter sa foi. Également, lorsque tu verses ta zakat, tu dois savoir que ceci est une manière de fructifier tes biens et qu'il y a en cela une bénédiction de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans son noble livre, au verset 276 de Surat al-Baqarah, « يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ » Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. C'est-à-dire que lorsque tu donnes une aumône, ceci est une cause de la bénédiction de tes biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, cela ne les accroît pas auprès d'Allah. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Mais ce que vous donnez comme zakat, pour laquelle vous recherchez le visage d'Allah, et ceci est important d'être sincère dans l'acquittement de cette zakat, ceux-là verront leur récompense multipliée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date qu'il a acquise d'une bonne manière, c'est-à-dire d'une manière licite, car Allah n'accepte que ce qui est bon, alors Allah la prendra dans sa main droite et la fera fructifier pour son auteur, et ce, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Donc tu vois la récompense qu'il y a dans le fait de dépenser ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, notamment la zakat obligatoire, mais aussi les aumônes surérogatoires. Allah subhanahu wa ta'ala, par ses aumônes, il efface tes péchés et tes mauvaises actions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Et ce qui est visé par l'aumône ici, c'est aussi bien la zakat obligatoire que les aumônes surérogatoires que tu fais en plus. Et également, il y a dans cette zakat une cause de subsistance. Car la zakat, elle ne diminue pas de tes biens, mais c'est une cause pour les faire fructifier et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore de sa subsistance. Et parmi les bénéfices moraux et sociaux de la zakat, il y a le fait que lorsque tu donnes ta zakat, lorsque tu donnes des aumônes, tu fais alors partie des généreux, de ceux qui font preuve de bienfaisance et de largesse. Et également, la zakat, elle va obliger celui qui doit la verser à se parer de ce comportement de la générosité et de la miséricorde et de la compassion envers les nécessiteux. Donc, comme il va se parer de cela qu'il va faire preuve de miséricorde envers les pauvres et les nécessiteux, il bénéficiera alors de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Et on remarque aussi que ceux qui sont généreux, qui viennent en aide, que ce soit en aide physique ou en aide financière aux musulmans, généralement tu les trouveras avec une poitrine épanouie, un cœur apaisé. Et celui-ci, généralement, il sera aimé des gens et honoré en fonction de ce qu'il prodigue comme aide à ses frères. Donc tu verras que cela, cette générosité, cette zakat ou les aumônes surérogatoires, elles vont mener à quoi? À la concorde et à la cohésion sociale entre les différentes classes de la société. Et ce, car les pauvres, ils n'en voudront pas aux riches. Car les riches, ils leur viennent en aide, ils leur versent leur zakat, ils leur donnent des aumônes. Contrairement aux sociétés dans lesquelles il n'y a pas cette zakat et ces aumônes. Regarde la division qu'il y a entre les différentes classes de la société. Les pauvres en veulent aux riches. Ils ont de l'amertume et de la haine envers eux. Pourquoi? Car ils sont dans la difficulté. Et que les riches ne font qu'amasser leurs biens et ils ne les redistribuent pas aux pauvres dans la société. Comme vous pouvez le constater dans les sociétés occidentales. Alors que chez les musulmans, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cette zakat qui est distribué. Il y a les aumônes qui sont versées qui fait qu'il n'y a pas cette haine et cette amertume entre les différentes classes de la société. Et cette zakat, bi'inillahi ta'ala, elle te purifie du comportement de l'avarice. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 103 de Surat al-Tawbah, « Khudh min amwalihim sadaqa, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. » Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. C'est-à-dire que cette aumône, elle te purifie de tes péchés et elle te purifie des mauvais comportements, comme l'avarice, la cupidité et le fait de vouloir toujours amasser plus d'argent. Et elle est aussi une cause de bénédiction dans tes œuvres et dans tes biens. Donc en donnant cette zakat et en donnant des aumônes, tes bonnes œuvres vont augmenter et tes biens que tu possèdes, ils seront fructifiés, incha'Allah ta'ala. Donc vous voyez tous ces bénéfices qu'il y a dans la zakat. Et dans l'aumône de manière générale, cela nous démontre que c'est une chose nécessaire pour le bon fonctionnement de toute la société. Et l'aumône de manière générale, elle possède de grands bienfaits. Donc le musulman, il doit faire des efforts en cela et s'efforcer d'être généreux, notamment durant le mois de Ramadan. Car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Et parmi les comportements importants liés à l'aumône que j'aimerais rappeler ici, il y a le fait de donner cette aumône par sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans le verset. Et également, comme le prouve le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cette catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera sous son ombre au jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Et parmi ces catégories de personnes, qui l'a mentionné? Il a mentionné un homme qui a donné une sadaqa et l'a cachée de telle sorte que sa main gauche ne savait pas ce que dépensait sa main droite. Donc ceci pousse le musulman à faire preuve de sincérité, à dissimuler ses aumônes. Et il y a un grand bien en cela. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala au verset 271 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala « In tubudu s-sadaqati fa ni'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, wallahu bima ta'maluna khabir. » Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est un bien. L'aumône, c'est un bien, même si elle est donnée de manière ouverte. Si la personne est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous les dissimulez et que vous les donnez aux indigents, c'est encore mieux pour vous. Allah vous expiera vos mauvaises actions et Allah sait parfaitement ce que vous faites. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit dans l'explication de ce verset que ceci prouve que la dissimulation de l'aumône est meilleure que le fait de la donner en public, car cela est plus éloigné de l'ostentation. Ensuite, il dit, rahimahullah, sauf s'il découle du fait de la donner en public un intérêt prépondérant, comme le fait que les gens le prennent pour modèle, alors cela est meilleur à cet égard. Puis il a dit, rahimahullah, et la base est que la dissimulation est meilleure d'après ce verset. C'est-à-dire que la base est qu'il est mieux de dissimuler et de le faire secrètement les aumônes. Toutefois, s'il y a un intérêt en cela, le fait que tu informes les gens ou que tu donnes de l'argent devant les gens à un nécessiteux permettra de faire savoir aux gens que celui-ci est dans les besoins et alors les gens vont lui venir en aide. Tu vas être pris pour modèle en cela. Alors dans ce cas-là, c'est un bien de la donner publiquement. Également parmi les comportements liés à l'aumône, il y a le fait que tu prennes garde à ne rien faire qui pourrait être une cause d'annulation de celle-ci. Comme le fait de rappeler au bénéficiaire de cette aumône que tu lui as donné. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. » Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Un tort causé à cette personne à qui tu as donné cette aumône, en lui rappelant ou en lui faisant savoir qu'elle t'est redevable de quelque chose. N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Ceci est une cause de l'annulation des aumônes à laquelle la personne doit prendre garde. Enfin, parmi les comportements liés à l'aumône, il y a le fait qu'il est recommandé de donner parmi tes biens ce que tu préfères. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 92 de Surat Ali Imran, « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » Vous n'atteindrez pas la bonté tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Il est rapporté au sujet de ce verset que Abu Talha, radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait partie des habitants de Médine, des Ansar, qui possédait le plus d'argent. Et parmi ses biens, ce qu'il aimait le plus, c'était une terre qui était à proximité de la mosquée. Alors lorsque ce verset a été révélé, « Vous n'atteindrez pas la piété jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. » Abu Talha est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » Vous n'atteindrez pas la bonté jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Et le bien que j'aime le plus est cette terre et ce puits. Alors je les donne en aumône pour Allah azza wa jal. Et j'espère ainsi atteindre la bonté et que ceci me soit compté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors place-les, ô messager d'Allah, où tu veux. Allahu Akbar. Il est venu, il a donné la chose qu'il aimait le plus. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ceci est un bien fructueux. Et j'ai entendu ce que tu as dit à son sujet, et je vois qu'il te convient de la distribuer à tes proches. Alors Abu Talha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé cette terre, et il l'a donnée à ses proches et à ses cousins. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. On voit donc à travers cela, le fait que, si la personne donne une chose qu'elle aime, sa récompense sera plus grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour terminer, j'aimerais apporter un peu de consolation à ceux qui n'ont pas de biens qui leur permettent de donner des aumônes. Rassure-toi, il y a d'autres moyens d'obtenir des récompenses. En effet, il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il incombe à tout musulman de donner une aumône. » Alors, les compagnons lui ont dit « Ô messager d'Allah, et si la personne ne trouve pas ?» Il dit alors « Il vient en aide à celui qui en a besoin. » Il dit « S'il ne peut pas ?» Il dit alors qu'il œuvre dans le bien et qu'il préserve les gens de son mal. Ceci est une aumône. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala. Tu œuvres dans le bien et tu préserves les gens de ton mal, ceci est une aumône. Et également dans l'autre hadith que l'on a mentionné hier dans les mérites du dhikr, lorsque les pauvres sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les riches étaient partis avec les récompenses, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers le fait de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est une aumône. Dans chaque tasbih, à chaque fois que tu dis subhanallah, à chaque fois que tu dis alhamdulillah, à chaque fois que tu dis Allahu Akbar, la ilaha illallah, tout ceci est considéré comme une aumône. Et la bonne parole également est une aumône. La bonne parole que tu adresses à tes proches, la bonne parole que tu adresses à tes enfants, la bonne parole que tu adresses à ton épouse, à ton époux, à tes parents, à tes voisins, tout ceci fait partie des aumônes. Donc il convient à la personne d'être assidu à cela. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit. Écoutez, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.